Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa économique et commerciale. Major Prépa t'accompagne tout au long de l'année pour te permettre de te révéler au concours.
Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de podcast Major Prépa. Je suis Florine, je suis passée par une prépa ECE et j'ai ensuite intégré l'ESSEC. Dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve pour de l'anglais et en particulier de la civilisation, puisqu'on va parler de 8 références littéraires qui vont te permettre de booster à la fois tes essais et tes colles en anglais. Effectivement, une maîtrise irréprochable de la grammaire anglaise est indispensable pour réussir un essai, mais les correcteurs cherchent aussi à ce que les candidats aient une connaissance approfondie de la civilisation anglo-saxonne. Quoi de mieux alors que de connaître quelques grands classiques de la littérature britannique et américaine et de savoir les utiliser à bon escient dans une copie ou en colle. C'est parti pour un petit voyage à travers 8 œuvres littéraires, anglaises et américaines, pour nourrir ta réflexion sur les grands thèmes de la civilisation. La première œuvre, c'est Brave New World de Aldous Huxley, qui a été écrite en 1932. Résumé, que se passe-t-il ? Dans ce roman dystopique, Huxley présente une vision réellement cauchemardesque du futur. Il décrit une société dominée par le World State, c'est-à-dire un gouvernement unifié qui administre la quasi-totalité de la planète. Dans cette société, les émotions des individus sont conditionnées dès leur plus jeune âge et les relations ne durent pas parce que chacun appartient à tous les autres. Les religions ont disparu et l'être suprême est devenu Henry Ford. Les êtres humains sont créés en laboratoire et clonés. On a également l'ensemble de la société qui est compartimenté en castes, conditionnées de différentes manières. Bref, on voit bien qu'on a ici une dystopie. Alors comment utiliser cette œuvre ? Eh bien, comme de nombreuses dystopies, Brave New World pousse à l'extrême les défauts de la société dans laquelle évolue l'auteur. Ici, on parle de totalitarisme, de consumérisme, de surpopulation, de dérive de la science, et tout ça est largement dénoncé. Dans ce monde aussi, le bonheur est officiellement obligatoire, mais n'est pas réellement présent. Il peut donc être très utile de maîtriser cet ouvrage pour traiter des sujets qui tournent autour de la question du progrès industriel ou scientifique, ou qui interrogent également la place de l'État dans la société. On peut également faire un beau parallèle avec un autre ouvrage dystopique tout aussi célèbre, qui est celui de George Orwell, 1984, qui évoque les mêmes thèmes. Et enfin, pour terminer avec cette première œuvre, voici quelques mots de vocabulaire à retenir. 3 mots. Numéro 1, nightmarish, N-I-G-H-T-M-A-R-I-S-H, qui veut dire cauchemardesque. Ensuite, a class system, un système de caste. Et enfin, a dystopia, D-Y-S-T-O-P-I-A, qui est le mot presque transparent pour exprimer la dystopie. La deuxième œuvre, c'est Animal Farm de George Orwell, qui a été écrit en 1945. C'est un roman satirique qui prend la forme d'une fable politique imaginée à partir des événements de la révolution bolchevique de 1917 et la prise de pouvoir de Joseph Staline. L'ouvrage met en scène en fait un groupe d'animaux qui renverse réellement le système d'exploitation humain auquel ils étaient soumis pour tenter d'instaurer un régime égalitariste à la place. Mais les cochons, qui sont décrits comme avides de pouvoir, trahissent ces idéaux initiaux et concluent que tous les animaux sont égaux, mais que certains sont plus égaux que d'autres. Comment utiliser cette œuvre ? Eh bien, à travers les personnages des animaux, en fait, Orwell dénonce les dérives d'un socialisme condamné à devenir totalitaire et profondément injuste, ainsi que la tendance humaine à l'asservissement. On observe une vraie métaphore animale qui permet d'interroger le rapport entre les hommes, divisés en couches sociales, là où les animaux sont divisés en espèces. Et c'est un grand classique de la littérature qui peut être très utile pour traiter le thème de la culture générale de l'année, qui est l'animal. 3 mots vocabulaire à retenir également. Totalitarism, le totalitarisme, un mot transparent. To overthrow, O-V-E-R-T-H-R-O-W, qui signifie renverser. Et enfin, egalitarian, E-G-A-L-I-T-A-R-I-A-N, qui veut dire égalitaire ou égalitariste. La troisième référence, c'est Frankenstein de Mary Shelley, écrit en 1818. C'est un roman épistolaire qui a donné naissance à l'un des personnages les plus emblématiques de la littérature britannique. Cet ouvrage raconte l'histoire d'un savant suisse, Victor Frankenstein, qui, cherchant à créer la vie, crée finalement un monstre hideux qu'il finit par abandonner. Ce dernier, il est intelligent et se voit mis en fait au banc de la société en raison de son apparence monstrueuse. Mais son intelligence fait qu'il survit et il complote également pour prendre sa revanche contre son créateur qui l'a abandonné. La méchanceté humaine aura finalement eu raison de lui. Comment utiliser cette œuvre ? Ici encore est posée la question du progrès infini de la science et donc des dérives potentielles de la science. Ça souligne en fait l'hybris qui pousse l'homme à vouloir se faire Dieu et créateur de vie, d'où le sous-titre de l'ouvrage qui renvoie d'ailleurs au mythe de Prométhée. Marie Shelley montre également les conséquences de l'exclusion sociale dont est victime le monstre, suggérant dans la lignée de Rousseau que l'homme n'est bon mais que la société le corrompt. Ainsi, l'auteur met en évidence la ligne bien mince qui sépare l'humanité de la monstruosité. Le mot de vocabulaire à retenir pour ce troisième ouvrage, c'est « monstrosity » qui veut dire la monstruosité et qui s'écrit « M-O-N-S-T-R-O-S-I-T-Y ». Quatrième référence, « Gulliver's Travels », écrit en 1726 par Swift. Dans ce roman, on découvre quatre aventures de Lemuel Gulliver, qui est un chirurgien de marine, qui voyage à travers le monde. Chaque lieu que découvre le personnage principal est éminemment caricatural, ce qui permet à l'auteur une satire des défauts humains. Gulliver découvre d'abord l'îlet de Lilliput, d'où les habitants minuscules font perpétuellement la guerre pour une affaire d'œuf à la coque. Lors de sa deuxième aventure, il va découvrir une société de géants, puis ensuite, il rencontre des individus obsédés par l'argent et l'impôt. Enfin, quatrième étape, il finit son périple dans une société où des chevaux intelligents ont domestiqué les hommes. À son retour en Angleterre, Gulliver, dégoûté par les hommes, quitte sa famille et achète des chevaux avec lesquels il finit sa vie. Comment utiliser cette œuvre ? Eh bien, dans chaque monde découvert par Gulliver, les habitants symbolisent certains pans de la société anglaise de l'époque. Chacun en prend pour son grade, homme politique assoiffé de pouvoir et de guerre, scientifique, littéraire. En moquant les caractères humains, Swift cherche à montrer le progrès social, moral et politique, dans la mesure où ce progrès social est possible, mais il faut être lucide sur ses défauts. Trois mots de vocabulaire à retenir. D'abord, a surgeon, S-U-R-G-E-O-N, qui veut dire un chirurgien. Ensuite, a remote, R-E-M-O-T-E, island, I-S-L-A-N-D, une île perdue, une île éloignée. Et enfin, sly, S-L-Y, qui veut dire sournois ou fourbe. Cinquième référence, The Great Gatsby, de Fitzgerald, écrit en 1925. L'histoire de ce roman tourne autour du personnage Jay Gatsby, qui est un jeune millionnaire américain, dans les années 1920. Il vit dans la débauche, il est obsédé par l'argent et par une jeune femme qui s'appelle Daisy. Gatsby s'est enrichi grâce à des activités illégales, notamment la contrebande et l'alcool. Il meurt finalement dans l'indifférence générale de ceux qui l'ont connu. Comment utiliser cette œuvre ? Eh bien, en plongeant son lecteur dans les arcanes du monde aristocratique, Fitzgerald montre en réalité les limites du rêve américain. Si Gatsby incarne la figure emblématique du self-made man, il demeure exclu du milieu auquel appartient Daisy, c'est-à-dire un monde clos où les nouveaux riches des années 20 n'ont pas leur place. Avec la mort du personnage principal, c'est donc tout le mythe de l'American Dream qui s'effondre. Pour approfondir ce thème, tu peux notamment regarder l'adaptation cinématographique de ce livre, avec DiCaprio dans le rôle de Gatsby, ou encore lire un autre ouvrage qui évoque les limites du modèle américain, Death of a Salesman, écrit par Arthur Miller en 1949. Le vocabulaire à retenir pour cette œuvre, trois expressions: to go from rags to riches, passer de la misère au luxe, to strike it rich, devenir riche, et the roaring twenties, les années 20 aux États-Unis. Sixième œuvre, The Scarlet Letter de Hawthorne en 1850. La lettre écarlate est l'un des premiers grands romans de la littérature américaine. Il relate l'histoire de Esther Prynne, une jeune femme tombée enceinte après un adultère. On la force alors à porter une lettre A, symbole de l'adultère, écrite en rouge sur sa robe. Esther souffre alors de mœurs puritaines de la société dans laquelle elle évolue. Comment utiliser ce roman ? C'est un roman historique et un pamphlet virulent contre la société puritaine. L'œuvre d'Hawthorne anticipe en un sens le féminisme moderne, exaltant la liberté individuelle, et notamment féminine, face aux restrictions abusives de la religion et des coutumes sociales. L'auteur pointe du doigt l'hypocrisie d'une telle époque, montrant d'ailleurs que son personnage principal n'est pas plus coupable que les autres. Quatre expressions à retenir: adultery, un adultère; a child born out of a well dock, un enfant bâtard; je répète, a child born out of well dock; a puritan, un puritain; et scarlet, rouge écarlate. Avant-dernière œuvre, Invisible Man de Allison en 1952. Que se passe-t-il dans cette œuvre ? Eh bien, le narrateur de cette œuvre est un jeune garçon noir sans nom et vivant dans des conditions insalubres. Il se sent invisible, estime que les gens ne voient en lui que sa couleur de peau. Après avoir déménagé à New York, il se réfugie dans un trou creusé dans le sol à l'écart de la société, à la recherche de son identité. Comment utiliser cette œuvre ? Eh bien, l'œuvre d'Ellison est une référence clé pour évoquer les questions raciales aux États-Unis. L'invisibilité du personnage lui ôte en effet toute identité, le regard de la société sur sa couleur de peau le dépossède de lui-même. Le masque social que ce personnage doit porter et la réalité sociale qu'il doit subir constituent ainsi une approche sociopolitique particulièrement intéressante de la question raciale aux États-Unis. Le vocabulaire ici à retenir un seul mot, nameless, anonyme. Et enfin, dernière œuvre, A Dry White Season de Brink, écrit en 1979. Ce roman se déroule à Johannesburg en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Ben et sa femme Suzanne vivent paisiblement avec leurs deux enfants, se souciant très peu des questions raciales qui déchirent le pays. Mais ce professeur d'histoire va se révolter lorsque son jardinier noir, Gordon, et son jeune fils Jonathan sont arrêtés, torturés et tués en raison de leur couleur de peau. Comment utiliser cette œuvre ? Eh bien, l'œuvre de Brink est une référence incontournable pour évoquer l'apartheid, tout comme le célèbre film de Clint Eastwood, Invictus. L'œuvre s'appuie sur une réalité historique terrifiante et insiste ainsi sur la violence du combat racial en Afrique du Sud. Le vocabulaire à retenir, deux expressions, to be discriminated against, subir une discrimination, et a gardener, un jardinier. Et voilà, nous avons fini avec ces 8 références littéraires. J'espère qu'elles te seront bien utiles pour l'écrit comme pour l'oral. N'hésite pas à consulter notre site Major Prépa sur lequel tu trouveras d'autres références littéraires et cinématographiques. D'ici là, je te dis bon courage pour ton travail et à très vite sur notre chaîne de podcast Major Prépa.